Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et cet après-midi, une émission consacrée à la langue française. On s'intéresse à tous ces mots et toutes ces expressions apparues ces dernières années et qui en disent long sur nous et sur notre société. Pourquoi dit-on par exemple qu'on est en mode détente ou en mode drague? Pourquoi le mot bienveillance s'est-il imposé à une époque hyper narcissique et individualiste? Pourquoi émaille-t-on nos phrases d'expression comme du coup, bonne continuation ou en vrai? Pourquoi certains mots à la mode font florès et disparaissent aussitôt? Pourquoi est-on agacé par certaines formulations quand par exemple un cuisinier part sur un rôti de lotte ou que votre voisine vous dit qu'elle est dans la colère en ce moment? Bref, nous verrons de quelle façon la langue parle à travers nous. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université, dramaturge, et vous venez de publier chez Grasset un essai qui m'a passionné. Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous, et qui a inspiré cette émission. Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française, et vous avez publié à la librairie Vuibert « Les secrets des mots ». Julie Neveu, vous avez donc mené une passionnante enquête linguistique sur le 21e siècle, et je trouve qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur votre discipline, la linguistique, pour comprendre en profondeur nos sociétés.
Mais ça me fait extrêmement plaisir ce que vous dites, Ali. Et je suis d'accord avec vous que la linguistique, en fait, est un magnifique et très pertinent moyen, outil, pour découvrir comment on est. C'est vraiment un miroir que nous tend la langue et qui permet de montrer non seulement comment on se représente la réalité, mais comment on s'inscrit à tel moment donné très précis. Et donc, c'est vraiment un outil qui peut être mis à disposition de tous. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le livre en me disant peut-être que ça peut aider à comprendre comment je ressens les événements et comment je les nomme.
Que voulez-vous dire quand vous écrivez « Je parle ma langue et ma langue me parle » ?
Alors, je veux dire que souvent, on pense à tort qu'on choisit les mots qu'on dit. Or, la plupart du temps, ce qu'on choisit, c'est un mot en particulier, celui vers lequel on tend, mais tout le reste de la phrase, c'est le lexique qui est disponible. C'est la syntaxe qui est disponible. Et donc, la plupart de nos mots sont inconscients. Et je voulais montrer que la plupart de nos mots, quand on les prononce, en fait, révèlent, nous donnent des informations sur ce qui on est, et que la façon dont je parle, donc, est très précieuse à étudier, et qu'en plus, elle me permet, si je m'y attarde et si je la regarde, de me donner des informations. Par exemple, ici, vous, Ali Rebi, j'aurais pu dire « Bonjour, Ali Rebi ». Vous voyez, la personne que vous êtes peut être désignée de plein de façons. Ou alors, j'aurais pu dire « Bonjour, mon Ali ». Mais vous avez dit avant que vous n'aviez pas envie qu'on vous appelle comme ça, et en plus, on ne se connaît pas trop bien.
Hors antenne, je vous avais dit que quand on m'appelle mon Ali, ça a tendance à m'agacer.
C'est ça. Or, vous voulez bien que je vous appelle Ali, ce qui donne une fausse perception aux auditeurs, que peut-être on est un peu copains, on se connaît à peine, mais en fait, vous voyez, c'est le climat radiophonique qui me permet de dire Ali et de jouer la familiarité, c'est-à-dire qu'en fait, la langue donne des informations sur le rapport que j'ai aux êtres humains, aux choses, et la plupart du temps, je ne fais pas attention. Donc c'est inconscient et c'est précieux comme mine d'informations.
Un jour, vous demandez à votre petit frère comment il va, et il vous répond « J'avoue, je suis en mode burn-out ». Cette phrase, c'est du caviar pour une linguiste qui enquête sur la langue de notre époque.
Oui, exactement, parce que en mode, d'abord, ça m'a fascinée, parce que c'est une expression que j'ai entendue pour la première fois il y a 5 ans, je pense, et que depuis 5 ans, tout le monde s'est mis à l'employer, enfin du moins entre 15 et 25-30 ans. Moi, je suis un peu au-dessus de ça, malheureusement, et pourtant, je l'ai attrapé aussi. Donc, j'ai trouvé fascinant de voir sur moi-même comment j'attrapais l'expression en mode. Ensuite, je la trouve très révélatrice de l'air du temps, parce que en mode, vous savez, c'est en fait notre téléphone qui est en mode veille, en mode avion, en mode silencieux. Donc c'est vraiment ça nous montre comme des hommes qui nous prennent pour des ordinateurs, des machines, c'est-à-dire que notre nouveau modèle, notre nouveau mode de comparaison, c'est l'ordinateur. Et ça montre aussi qu'on peut basculer d'un mode à un autre très très vite, qu'on pense ça de nous. Et à la fois c'est très drôle, c'est-à-dire que j'ai remarqué un emploi, une évolution en mode. Au début on disait en mode, là on est en mode confiné, donc avec un adjectif, on est en mode en masque, on n'entend rien, vous voyez. Mais maintenant on dit, oh il est en mode mais arrête, je vais aller, oh là là, je vais aller m'acheter un chien, comme ça au moins je pourrais sortir, quoi. Vous voyez, donc là, on fait des introductions de phrases avec en mode, donc c'est un outil très drôle qui est devenu vraiment majoritaire dans les phrases des plus jeunes.
Et puis cette expression a pris possession de vous, bien malgré vous.
Tout à fait, c'est-à-dire que je me suis aperçue que en fait, on attrape vraiment les expressions par mimétisme et que très souvent, au début, on est là, ah non, je n'aime pas cette expression, elle ne convient pas à la langue française, qui est quand même bien, qui vaut mieux que ça. Et puis au bout de 2 mois, on se met à dire, en mode comme un perroquet. Et c'est le cas de la plupart des expressions qui sont dans l'air du temps, parce qu'elles correspondent à une certaine sensibilité et qu'on en fait partie.
Julie Neveu, vous dites que nous sommes des animaux linguistiques mimétiques. Que voulez-vous dire par là ?
Eh bien, je veux dire qu'on se pense à tort comme des êtres de raison, tout le temps. Or, le langage fait partie des mécanismes qu'on acquiert très tôt et qui deviennent majoritairement inconscients, et que donc c'est presque un instinct animal qui fait qu'on va parler comme son voisin. Moi, quand je vais au Québec, j'y vais pas souvent, je prends l'accent québécois, réellement. Peut-être qu'à la fin de cette émission, j'aurai un petit accent du sud.
De Toulouse.
De Toulouse, sans faire de la glottophobie, bien sûr, mais par goût, par mimétisme, purement.
Les bébés nous imitent quand nous parlons. Peut-on dire que d'un point de vue linguistique, nous restons des bébés ?
Ah oui, je le pense vraiment. Ouais. Je le pense vraiment. Alors, nous avons, heureusement, la chance et la capacité d'exercer notre esprit critique et peut-être d'essayer de lutter si certaines expressions nous déplaisent vraiment ou que pour des raisons idéologiques, on refuse d'emprunter tel ou tel mot qui sont devenus à la mode. Donc on peut lutter contre ça, mais la pulsion fondamentale, l'énergie qui nous pousse à parler, c'est celle du bébé qui voit le visage de l'autre faire certains mouvements et prononcer certaines syllabes, et il fait la même chose.
Jean Pruvot, comment s'approprie-t-on un nouveau mot ?
Ben, écoutez, d'abord, on l'entend une première fois et parfois on ne le comprend pas. Et une seconde fois, ou une deuxième fois plutôt, on le trouve dans un contexte et on commence à se l'approprier parce que on le trouve bien ou au contraire, on n'a pas de remplacement. Alors je pense par exemple, Julie exprimait très bien le mot burn-out. C'est un mot, bon, quand on l'a découvert, bon, il est apparu dans les années, donc 1985, c'est là à peu près que on le date dans son entrée dans la langue. On a compris assez vite que c'était lié au fait d'exploser. Puis après, on a essayé de le traduire en syndrome d'épuisement professionnel. C'est la recommandation officielle, mais elle est bien longue. Il faudrait trouver autre chose. Et finalement, comme on n'a pas le choix, ben on va utiliser le burn-out. Alors, il y a des mots qu'on s'approprie comme ça parce que on n'a pas tout de suite la traduction. Puis il y en a d'autres. Bon, les fake news, c'est l'exemple type. On nous propose un fox. Finalement, c'est assez joli comme mot. Barbara Cassin dit même qu'il devrait entrer dans le dictionnaire de l'Académie. Eh bien là, bon, ben, on l'adopte parce qu'il nous plaît. Donc il y a les mots qui ne nous plaisent pas forcément, mais on n'a pas de traduction. Il y a les mots, on n'a pas le temps d'en trouver une et on utilise l'emprunt qui est là. Puis il y a des mots bon, qui nous séduisent d'emblée, hein, dans la francophonie. Je ne sais pas, des mots comme cadoter, siesté, par exemple.
Siesté, bon, ben, j'aime beaucoup.
J'entends, j'ai envie de l'utiliser, je sieste.
Julie Neveu.
Oui, ce qui est très intéressant dans ce que Jean Pruvot vient de dire, c'est que parfois ça ne nous plaît pas. Et c'est ça que j'aime bien, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que oui, parfois, ça nous plaît pas, mais c'est comme ça qu'on est, malheureusement. Donc je vois beaucoup de personnes qui me disent « Oh, je déteste cette expression !» Puis vous-même, vous les lancez quand vous avez demandé si elle aimait, ce qui la dérangeait quand la dame qui a fait les infos.
Marion Lourd,
pardon. Et en fait, bah oui, ça nous dérange. Pourquoi ? Parce que on prend des habitudes. Et vous savez, le poids des habitudes, c'est jamais assez souligné. L'habitude, elle devient normative très très vite. Et après, on se met à penser que c'était mieux. Comme je parle, c'est mieux. Alors, donc c'est une tendance qu'on a, la tendance du puriste réactionnaire. On l'a tous en nous. Mais je pense qu'il faut lutter, c'est important. Parce que d'abord, eh bien, la réalité évolue. Et nous, il faut bien qu'on trouve des termes qui désignent cette réalité. Fake news nous parle parce qu'on est dans une époque où il y a une méfiance vis-à-vis de toutes les autorités. Burnout, selon moi, marche bien parce que c'est une métaphore écologique. Burnout, c'est la combustion totale par le feu. Et le psychologue qui a proposé ce mot l'avait proposé à propos de bénévoles humanitaires qui avaient été épuisés d'avoir essayé d'aider des personnes toxicomanes, et en fait, ils n'avaient pas eu assez de retour sur investissement. Il avait dit, ça c'est le burn-out, c'est-à-dire quand on a beaucoup, beaucoup donné et pas assez reçu, et c'est devenu un terme propre à désigner le fait qu'on avait des énergies naturelles en nous qui pouvaient venir à épuisement, c'est-à-dire être épuisé, le puits était vidé, quoi. Il n'y avait plus d'énergie, donc c'est une métaphore vraiment qui montre notre éveil aux choses, aux ressources naturelles.
Jean Pruvot, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un néologisme ?
Alors, un néologisme, d'abord la première chose c'est de dire que c'est un mot qui date d'assez loin, des années 1750, quand il a été lancé, repris en 1801 par Mercier, Jean-Sébastien Mercier, qui évoquait donc les néologismes ou les nouveaux mots. Et puis ensuite, dire aussi que dès le départ, il était négatif, c'est-à-dire qu'on considère un néologisme comme étant quelque chose à détruire. Alors on a même des gens comme Victor Hugo, encore pendant longtemps, qui vont lui donner une connotation négative en disant la néologisme néologie n'est qu'un triste remède pour l'impuissance. Bon, alors heureusement, il y a Frédéric Dard un peu plus tard, donc avec Saint-Antonio, qui dira que c'est qu'il est créateur d'un nouveau langage, à ce qu'il paraît, avec du génie plein la musette. J'ai pas peur des mots, c'est une fière luronne, langue française. Donc si vous voulez, la néologie, c'est le fait d'inventer des mots, et effectivement, on est bien obligé de le faire. Et alors Bernard Quémada, en 1971, qui est, avec Alain Rey, un des grands linguistes du siècle, et lexicologue, disait ceci: une langue qui ne connaîtrait aucune forme de néologie serait déjà une langue morte, et l'on ne saurait contester que l'histoire de toutes nos langues, c'est en somme que l'histoire de leur néologie. Donc voilà, du côté, si vous voulez, de ces mots nouveaux, comment on peut évoquer des mots qui apparaissent. Il y a un petit problème, parfois. Vous savez, on a les auteurs de mots croisés, j'aime beaucoup leur définition, parce qu'elles nous font réfléchir, c'est une autre facette. Ils définissent le dictionnaire, parfois, comme monument de mots, ou monument aux mots. Bon, on pense au monument aux morts. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, quand le mot entre dans le dictionnaire, il a déjà un peu d'âge, c'est qu'il a déjà été répandu dans le langage et que par conséquent, bon, on peut l'enregistrer. Donc le vrai néologisme, c'est celui qu'on inventerait, par exemple, dans cette émission, en disant, je ne sais pas, on alilogue, par exemple, c'est-à-dire on parle comme Ali Rebéi avec talent et chaleur. Bon, là, j'invente un néologisme. Alors, sera-t-il repris?
Je suis pas sûr. Pas,
mais chaque famille créer un néologisme. Quand dans ma famille, quand à un moment donné, cette fameuse, d'ailleurs je ne trouve même plus le mot pour amener la télécommande pour allumer la télévision, un de mes enfants a dit « Mais où est le pouvoir ?» D'un seul coup, j'ai dit « Mais le pouvoir ?» Et on a tous compris, le pouvoir c'est celui qui avait la télécommande. Et donc dans ma famille, on parle pas, on a ce néologisme familial. Chaque famille a ses mots, chaque couple d'amour amoureux à ces mots, et donc c'est une merveille qu'une langue soit en permanence alimentée de nouveaux mots. Elle est frétillarde, moite, blandissante, comme le disait Maurice de la Porte en 1571.
Julie Neveu.
Oui, bah, en effet, dès que il y a des nouvelles réalités, donc faut les nommer. Et évidemment, en termes de néologie, on a été servi avec le Covid. C'est quand même un magnifique exemple, on va dire tristement magnifique, de ce qu'il a fallu créer comme mot pour désigner des nouvelles réalités. Donc Covid, confinement, personne n'en avait jamais entendu parler. Le confinement, c'était dans une cellule de prison, dans une chambre d'hôpital. Et là, c'est devenu nos modes de vie quotidiens. Donc je propose un néologisme, le Covidien. Quotidien, à la mode Covid. Et je vais juste dire pour Alain Rey que, oui, par exemple, lui, il parlait sans arrêt des emprunts nécessaires et qui étaient la preuve que plus notre culture s'élargissait pour incorporer des nouvelles cultures. Et j'aime bien un exemple qu'il donnait, si j'ai le temps, c'était à la Renaissance. Il parlait de la façon dont on s'était mis à parler la tomate. Et c'était, j'adore comment il racontait cette histoire. C'est-à-dire que la tomate, eh bien, donc, fruit découvert par les conquistadors qui arrivent au Mexique, qu'ils envoient au roi d'Espagne, donc un petit plant de tomate, au roi d'Espagne, et en même temps au pape. En Espagne, ils reçoivent le plant, c'était des petites tomates vertes un peu épicées, ils se disent, aïe, c'est pas très bon, ça fait des petits problèmes digestifs, on va plutôt en faire une plante d'ornement, une décoration. Et en Italie, en revanche, ils la cuisent, ils s'aperçoivent que c'est très très bon assaisonné, que ça va bien avec les pâtes qu'ils ont récupérées des Arabes, et donc ils se disent, très bien, voilà. Et par contre, tomate, c'est pas joli, tomate qui venait du Nahuatl, c'est-à-dire langue amérindienne, et donc ils l'appellent pomodoro, hein, la pomme d'or. Et donc je trouve ça fascinant, c'est-à-dire qu'il y a des mots pour des réalités, mais des réalités selon la façon dont on les perçoit.
Julie Neveu, quand un auditeur, une auditrice prend contact avec la médiatrice de Radio France, en l'occurrence Emmanuel Davier, pour s'agacer de l'usage d'un néologisme à l'antenne, il s'agace aussi de l'air du temps.
Bien sûr, totalement. Et une fois de plus, c'est normal, c'est naturel. Il faut se poser les questions. En fait, il faut se demander pourquoi ça nous énerve. Il faut accepter, peut-être faire une petite leçon, un petit travail d'autocritique et se rendre compte que sans doute qu'à 15 ans, on disait des choses qui aujourd'hui nous énerveraient, que c'est une tendance qu'on a de vouloir maîtriser cette langue. Vous savez, c'est tellement difficile d'apprendre la langue française, notamment avec ses codes. C'est un labeur tel qui devient après, et ce mécanisme racisme inconscient. Donc forcément, on se sent menacé dès que quelqu'un parle différemment. En gros, c'est le drame du langage barbare. Hein. Vous savez, les Grecs, déjà, ils avaient inventé ce mot barbare pour dire celui qui ne parle pas le grec. Le grec qui était censé être la langue la plus parfaite. Bon, aujourd'hui, nous, on pense que le français est parfait. Le français n'est pas parfait, c'est une langue parmi d'autres. Le français est une langue mélangée. Elle est née d'un contact entre le latin, le gaulois, et puis après, il y a eu du germanique, etc. Donc, c'est une langue impure, déjà, et il faut accepter qu'elle évolue. Soyons plutôt conscients qu'elle évolue. Soyons confiants, parce que si elle évolue, c'est qu'elle continue à être riche. Par contre, reconnaissons qu'en effet, peut-être le français qu'on parle à Paris n'est pas le français le plus majoritaire. Peut-être que le français qu'on parle dans toute la francophonie, peut-être le français d'Afrique du Sud, comme Jean Pruvot, eh bien, le remarquait, il est un peu plus souple. Donc, il va y avoir siesté, il va y avoir cigareté pour fumer une cigarette, il va y avoir doigté pour montrer du doigt. Et il va y avoir toutes sortes de mots comme ça, plus de souplesse. Donc, la langue française, elle est ça aussi.
Jean Pruvot.
Oui, alors ce que je crois aussi, c'est que il faut faire intervenir un paramètre qui est le temps qui s'écoule. Quand un mot apparaît et qu'il est lancé dans les médias ou qu'on le rencontre, si vous voulez, un peu trop vite, d'un seul coup, il peut avoir du succès et être oublié. Donc, si vous voulez, je vois par exemple le mot confinement, puisque on est en plein dedans. Il y a eu un moment donné où on a parlé de la confination. Hein, et on disait le confin. On trouve par exemple dans Furetière le fait d'être confin avec l'Espagne et les Pyrénées. Confination, bon, c'était les limites, et puis le mot a disparu pour donner lieu au confinement, effectivement, d'abord l'emprisonnement, puis le malade contagieux, puis aujourd'hui, eh bien, on voit bien que c'est un mot qui, hélas, a dû, évidemment, du répondant, mais on a aussi lancé la quatorzaine. On n'en parle plus beaucoup, après on a parlé de la septaine. Donc, si vous voulez, je me méfie quand même et de l'enthousiasme qu'on aurait au premier néologisme venu, et je comprends très bien qu'un auditeur puisse être agacé par tel ou tel mot. Tout à l'heure, on parlera des agacements, mais dans les agacements, bon, il y a dans le fond un jeu qui s'exerce. Je vois bien combien tous les jours je reçois une publicité pour un événement et on me dit « save the date ». Bon, ça m'agace un peu. Et puis, il y a quelques jours, j'en vois d'autres qui me disent « prenez date ». Bon, bah, je trouve que « prenez date », c'est plus joli, je vais le lancer. Si j'ai un certain succès avec ce mot, bah, petit à petit, peut-être « save the date » sera remplacé par « prenez date ». Je crois qu'il faut admettre qu'il n'y a pas de manichéisme et qu'il y a, si vous voulez, un jeu des uns et des autres pour faire passer plutôt un mot. Mais il y a quand même quelque chose de très important dans la néologie, c'est qu'il existe une politique linguistique qui a toujours, si vous voulez, été mise en relief par le pouvoir, au bon sens du terme, en partant de François Ier, de la République, avec l'Académie française commencée en 1694, on n'est pas sous la République, mais qui se continue avec ne dites pas des conseils, avec la DGLF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, et qui nous conseille. Un Fox, par exemple, est né de ces réunions entre la DGLF et l'Académie française. Donc on a quand même une politique linguistique qui fait qu'on peut avoir un choix. Alors c'est toujours l'usage qui l'emporte, mais l'usage est quand même un peu guidé. Si on dit un fox, c'est parce que quelque part, dans une commission de la délégation et par des académiciens, le mot a été proposé. Alors il y en avait d'autres, c'est celui-là qui semble l'emporter. Donc je crois, si vous voulez, qu'il faut se garder d'être manichéen, c'est formidable, la langue évolue tout le temps. Je suis d'accord avec Julie, il faut laisser l'usage s'installer, mais il y a aussi des conseils qui sont donnés, des suggestions qui sont faites, et qui peuvent répondre à certains agacements. Tout à l'heure, quand vous allez nous demander des agacements, on va en donner quelques-uns. Par la chance que votre émission est extrêmement écoutée, bah, peut-être qu'on va faire passer des conseils, des choses. Donc, si vous voulez, il y a quand même un jeu, je dirais, des pouvoirs en place, qu'il s'agisse des médias, du grand public, des gens qui sont dans le RER, du café, des publicistes, tout ça, c'est un mélange. C'est bien qu'il y ait une politique linguistique pour nous guider. D'ailleurs, on ne serait pas content parfois d'être hors norme si on ne donnait pas un peu une norme. Cette norme sont les dictionnaires, le petit Robert, le grand Robert, Alain Rey aussi, bien sûr, qui nous le donnait à travers ses ouvrages, qui nous permet de nous y repérer.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, je suis pas complètement enthousiaste pour toutes les néologies, surtout s'il y a des mots qui sont bien, qui existent. En fait, je dis juste que parfois il y a une nécessité et que ce qui agace, c'est pas que le langage. On s'énerve sur save the date, mais ce qui agace, c'est que, en effet, l'anglais soit une culture dominante dans beaucoup d'aspects. Et ça, je ne le nie pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut rechercher un équilibre entre créativité quand c'est nécessaire et normes et stabilité, bien sûr. Ne serait-ce que pour le plaisir de conserver la lecture de tous ces textes anciens, de pouvoir parler de Montaigne, de pouvoir lire tout ça. Et pour pouvoir lire Montaigne, et pour pouvoir lire Rabelais encore plus, il faut bien sûr qu'on ait encore accès à la complexité de la syntaxe française. En fait, ce que je combats, moi, c'est une sorte d'une langue pure qui serait le français, d'une langue esthétiquement supérieure aux autres, qui est un mythe absolu. Et donc, que je trouve dangereux. Parce que j'entends, moi, des formes de xénophobie linguistique, en fait. J'entends qu'on repousse l'envahisseur. Et je dis, c'est pas ça le problème. C'est des cultures, c'est des entrelacements de cultures. Il y a des ping-pong, donc l'anglais et le français, évidemment, mais avec toutes sortes d'autres cultures. D'abord, il y a eu l'italien qui était dominant au 16e en français. Donc, on a eu toutes sortes d'emprunts et l'emprunt enrichit. Et comme, une fois de plus, Alain Rey disait, le risque, le danger, il y en a deux, en fait. C'est une langue qui ne s'écrirait pas. Or, on n'arrête pas d'écrire. Depuis qu'il y a Internet, c'est ça le paradoxe. Au moment où Internet a été créé, apparemment, on s'inquiétait un petit peu parce qu'il y avait de moins en moins d'écriture. Donc on se disait, tout va devenir oral, la langue française va s'appauvrir. Internet est arrivé, et avec ce système d'écriture spontanée, certes, sous une forme assez orale, mais quand même, tout le monde écrit de plus en plus en permanence. Donc finalement, on a sauvé un petit peu. Vous voyez, le français est resté écrit, donc ça, il n'y a pas de danger. Et l'autre danger, c'est une langue qui est parlée par tout le monde, mais mal en s'appauvrissant et qui n'emprunte plus. Et Alain Rey disait que l'anglais, en ce sens, était plus en danger que la langue française.
Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé, à la réalisation Stéphanie Texier, qui n'aime pas l'expression « je dis ça, je dis rien ». Je vous propose d'écouter Kerenan, Jardin d'hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère.
Kerenan, interprété Jardin d'hiver.
Voulez-vous une bonne tasse de thé ?
Mais qu'est-ce qu'il a à crier comme ça ?
Juste une demi-tasse pour moi.
Grand bien vous fasse.
Je crois que ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien.
Sur France Inter.
Ce que nos mots racontent de nous, c'est notre thème cet après-midi, avec le lexicologue Jean Pruvot et avec la linguiste Julie Neveu. en hommage à la disparition du grand amoureux de la langue française qui était Alain Rey, disparu donc le 28 octobre dernier, Claire Destacan a réalisé ce medley qui célèbre notre langue.
Le mot juste, c'est formidable. Mais alors me direz-vous si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien de rien. Il faut justement ce mot chargé, qui a plusieurs significations, il faut le mettre dans une phrase où il peut éclater et servir le début de la phrase et la fin de la phrase.
Car rien n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien.
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique.
En tout petit, c'est le même prix. Prix, uniprix, monoprix.
Les flots roulant au long.
Moi aussi, c'est fait à des alexandrins. Du con.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave.
C'est pas qu'elle se dégonfle, c'est que...
Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude.
Elles font pchit.
C'est un roc.
Je dirais même plus.
C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap.
Quoique.
C'est une péninsule.
Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour quand.
Une contrebatterie, c'est l'échange de deux éléments. La vieille dame folle de la messe, la vieille dame molle de la fesse, ça c'est par consonant.
Il me dit pour où? Je dis pour quand. Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où.
L'histoire de la langue française peut se lire et se présenter comme un roman. L'amour du français dépasse largement l'amour d'une nation, c'est l'amour d'une culture.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Très joli medley signé Claire Destacan. Et dans la lignée de ce medley, Margot nous demande comment expliquer que la langue française permette tant de liberté. N'est-elle pas la seule au monde à permettre tant de créativité? Jean Pruvot, je rappelle que vous êtes professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française.
Alors, ce qui est certain, c'est que la langue française a quand même évidemment une longue histoire, comme toutes les langues, et comme toutes les langues, elle a une capacité à inventer. Alors, nous avons, issus du latin, bien sûr, des préfixes, des petites particules qu'on met devant les mots. Nous avons des suffixes qu'on met à la fin des mots, donc on en joue avec beaucoup d'aisance. Et on ajoute à ça aussi une grande littérature. Toutes les langues n'ont pas une grande littérature, toutes les langues sont riches et ont bien sûr une capacité à faire des mots, mais cette littérature qu'on va retrouver à partir du 17e, 18e, 19e, 20e dans nos dictionnaires, va aboutir aussi à un usage littéraire, à un usage figuré des mots. Et ça, ça a quelque chose d'assez merveilleux. Je ne pense pas qu'on soit une plus belle langue qu'une autre. Chaque langue a sa particularité. Dans la story de la langue française, je montrais comment l'anglais était concis, comment l'anglais, d'une certaine façon, rendait les mots plus rapidement, presque de manière concrète, quand nous développions en langue latine. Donc c'est deux qualités différentes qui peuvent d'ailleurs se compléter. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse d'une langue. Moi, je voudrais montrer juste avec un exemple littéraire pour répondre à cette dame qui a vraiment la bonne question. En 1924, un Tchèque, Karel Čapek, écrit les, alors on le traduit en français, les robots universels de Rossum. Cette formulation venait d'un latin, on retrouve rob, robot, etc., qui voulait dire le travail en tchèque. Et finalement, ça va passer grâce à un psychologue et à d'autres personnes dans le monde industriel. Et voilà comment on a les robots. Et alors, on voit, vous évoquiez les mots nouveaux qui arrivent. En ce moment, il y en a un qui est sorti dans nos dictionnaires de 2021. C'est le bot, le beau. Mmh. Et le beau, c'est l'abréviation de robot. Mais on a aussi Kobo. Qui était travailler ensemble avec le robot. Donc on voit à quel point un mot, on peut enlever un petit morceau, on peut ajouter un petit morceau, on peut donner des préfixes, des suffixes, et on l'enrichit en permanence. Et parfois, ça part d'un écrivain qui lance le mot. On sait comment, par exemple, farfelu a changé de sens, parce que un écrivain l'a associé à farfadé, alors que au départ, ça venait de faf, qui voulait dire un peu goulu et que quand la marquise de Sévigné dit que l'infante d'Espagne est farfelue, bah, il faut comprendre qu'elle est en quelque sorte dodue. Donc si vous voulez, on parlait des andouilles farfelues. Vous voyez, le mot change.
Oui.
Donc ça, c'est aussi les écrivains. Et il y a un jeu merveilleux entre les écrivains, les dictionnaires qui l'enregistrent, que ce soit des gens qui sont écrivains au sein d'une institution qui fait un dictionnaire, ce sera l'Académie, que ce soit le grand Robert, avec Paul Robert le premier à avoir récupéré toutes sortes de citations, notamment du XXe siècle.
Julie ne veut réagir, maîtresse de conférence en linguistique.
Oui, non, mais je vais répondre aussi à la question de Margot, c'est ça. Hein. Jean-Pruvot vous l'a dit, mais en fait, quand même, rappelons que le français, il est un peu moins créatif que pas mal d'autres langues. En fait. Donc cette impression de créativité qu'a Margot, je pense qu'elle se rend compte qu'on absorbe des nouveaux mots et que c'est vrai que ces changements vont de plus en plus vite avec les nouveaux modes de communication sur Internet. Mais Margot, en fait, l'allemand est beaucoup plus créatif. L'anglais est un peu plus créatif parce qu'en effet, nous, il y a une sorte de rigidité de la forme. La morphologie est assez difficilement adaptable. Alors qu'en allemand, donc la langue germanique permet de poser des mots devant, d'emboîter des mots et ça fait des très très gros noms composés. Et c'est vrai que certains locuteurs du français ont donc un rapport un peu plus souple à la langue et c'est tant mieux pour nous.
Julie Neveu, revenons à votre formidable enquête linguistique qui explore la langue de notre temps. Hein. Je parle comme je suis. J'aimerais qu'on explore quelques expressions et mots dérivés de la technologie. Vous les appelez les mots de l'homme-machine. Les analogies entre l'homme et la machine remontent au XVIIe siècle, au moins à Descartes. Hein, et nous avons tout un tas de mots comme bugger, voilà. Par exemple, qui ont envahi notre langue.
Exactement. En fait, ce que je trouve très intéressant.
Mais pour dire, par exemple, si je me mets à bafouiller, je bug.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, bugger, en ce sens, il est fascinant d'abord, parce que pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, c'est intéressant de se rendre compte que le mot « bugger », avec ce sens-là, n'existe pas en anglais. Donc c'est une invention française de lui donner ce sens-là. Parce que « bug », en anglais, c'est mettre sur écoute, ou bien « bug off », ça veut dire « dégage ». Voilà. Donc « bugger » pour dysfonctionnement du cerveau, ça c'est très intéressant. Ce que je trouve fascinant, c'est que toutes nos révolutions techniques ont apporté une vague de nouveaux mots. Avec l'électricité qui était inventée au début du 19e, on a eu plein de métaphores autour de l'électricité. On a eu « galvaniser », parce que Galvani, l'inventeur italien, vous savez, de l'électricité animale qui disait qu'elle est grenouille, mais galvaniser, ce que je trouve intéressant, c'est que électricité et galvaniser, ça a donné des mots plutôt positifs, vous voyez, donc galvaniser, c'est une surcharge d'énergie tout d'un coup, dynamique, des mots dynamiques, et nous, les mots qui nous sont arrivés avec notre évolution à nous, technologique, à savoir Internet, l'âge numérique, c'est des mots assez négatif. Donc bugger, comme la machine, notre cerveau s'interrompt, donc une sorte d'inertie comme ça, une pathologie légère qui peut nous arriver. Et puis on a aussi évidemment googler, hein, je parlais des révolutions technologiques qui apportent leurs mots, donc googler comme le nom de la marque, ça s'appelle une antonomase, ça, quand on a une marque qui devient un nom propre, qui devient un nom commun. Il y avait aussi frigidaire au début du 20e, qui venait de la révolution de l'électroménager qui arrivait dans la maison. Voyez, donc c'est normal, on a tous nos mots qui résultent de nos révolutions technologiques.
Et oui, les mots de l'homme-machine nous montrent l'impact incroyable de la révolution numérique. La révolution numérique parle en nous. Les mots de cette révolution numérique attestent de notre dépendance.
De notre dépendance et de notre état normal, c'est-à-dire que la norme, c'est la connexion. Vous voyez, et donc ce qui est fascinant, c'est qu'un mot comme déconnecté, je sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens, j'étais ado dans les années 90 et connecting people, c'était le slogan de Nokia. C'est-à-dire que la connexion, c'était un état souhaitable. On avait tous envie d'être connectés et le type déconnecté, c'était un type un peu à la marge, un peu un marginal, un peu un loser. Aujourd'hui, il faut se déconnecter et là on recherche ça, c'est-à-dire que la connexion est devenue tellement notre norme et une norme jugée, perçue comme fatigante, stressante, épuisante, menant au burn-out, qu'il est devenu nécessaire de se déconnecter. Donc en effet, tous ces termes montrent qu'on est complètement dépendant, bien sûr, de nos outils. Il y a ce terme nomophobie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Expliquez-nous.
Ouais, alors nomophobie, peut-être vous ne l'avez pas entendu encore.
Si, je l'ai souvent entendu. Mais
D'accord, nomobile phobia, la phobie due à l'absence du téléphone portable, hein, anglicisme encore, c'est des psychologues qui se sont aperçus que c'était un nouveau mal, une nouvelle pathologie.
Trouble.
Un trouble psychologique qui résultait de notre panique à voir qu'on ne trouvait pas notre téléphone dans notre poche. Voilà, et qui s'explique très bien puisque tout est réuni dans notre téléphone, toutes nos informations, toute notre vie en fait.
Vous vous êtes intéressé également aux mots qui disent nos sentiments, nos bons sentiments en privé, en public. Peut-on dire que le lexique du sentiment est omniprésent dans nos échanges privés et dans l'espace public ?
Et oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la distinction privé-public, je ne sais même pas si elle a encore une pertinence, vous voyez. Enfin, elle en a une, et je souhaite qu'elle en ait une, et il y a encore nos vies intimes. Maintenant, on va peut-être dire intimes à la place de privé. Mais privé, qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on publie tous nos selfies, nos stories, etc. sur Instagram, sur Twitter, qu'on parle de nos vies en permanence, qu'on échange et qu'on communique et qu'on publie tout en permanence. En fait, c'est ça qui s'est passé, et les sentiments, du coup, sont arrivés sur la place publique, en effet, sous l'influence, bien sûr, de la culture américaine, le bon sentiment. Et donc, à la fois, si vous voulez, le bon sentiment est beaucoup plus souvent proclamé, comme la bienveillance, qui est cette notion très à la mode, qui est d'ailleurs très pertinente dans cette émission, grand bien vous fasse, hein, c'est-à-dire que c'est une émission bienveillante. Et tous ces bons sentiments sont devenus une sorte d'injonction sociale. Et ça, c'est assez nouveau en France, parce qu'on résistait beaucoup, hein. L'esprit critique français était en lutte contre ça. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que c'est arrivé, ça s'est déversé dans nos façons de parler.
Sur les réseaux sociaux, un bouton fait fureur depuis quelques années, c'est le bouton « like », qui veut dire « aimer ». Ce bouton « like » qui permet à l'utilisateur de montrer son intérêt pour un contenu. Et le mot « like » se conjugue en français. « J'ai liké, il m'a liké ». Pourtant, le like des réseaux sociaux n'a rien à voir avec l'amitié. Oui. On imagine mal Montaigne liker son ami La Boétie. Qu'est-ce qu'il nous dit au fond, ce mot like, qui s'impose comme ça dans l'espace public, dans nos conversations ?
Eh bien, il nous dit ce que la sociologue Eva Hughes a très bien décrit, hein, comme la marchandisation de nos émotions. Il dit que Zuckerberg a tout compris. C'est-à-dire le créateur de Facebook qui avait dit très tôt que le graal du commerce, c'était l'amitié. Parce qu'il n'y avait rien de plus fiable que la recommandation d'un ami. Et donc liker, c'est cet outil, oui, et on a très bien compris, je crois qu'on comprend que ça ne veut pas dire aimer. Donc liker, c'est ce geste qui fait que je participe, je suis devenu un individu actif et réactif, et je participe à la promotion de mes amis, sachant que ce que je trouve très intéressant, c'est que like, donc le mot anglais, vous savez, il peut vouloir dire deux choses, soit like, j'aime bien, soit like comme, like my friends, I like Facebook, hein, comme mon ami. Or, like comme et like aimer viennent de la même origine, d'un mot germanique qui était Lich, qui a donné Leich en allemand, le corps, l'apparence du corps et le cadavre. Et en fait, il y a certaines langues qui ont conservé un seul mot pour dire aimer et ressembler, comme le néerlandais. Et donc, en fait, là, on retrouve ça. On retrouve le fait que c'est pas vraiment qu'on aime, c'est surtout qu'on se ressemble. Mmh. Et dans ce système géré par les algorithmes qu'est Facebook et que sont tous les réseaux sociaux, finalement, je vais avoir tendance compulsivement à appuyer sur ce bouton like pour mettre en valeur ceux qui me ressemblent. Et donc, il faut faire attention à ça.
Jean Pruvot.
Oui, enfin, je trouve effectivement très très porteur cet échange entre les langues. Je pense qu'il y a aussi un aspect qui ne manque pas de charme, c'est que d'un côté on a des mots nouveaux, on parle de pansexualité, etc., qu'on comprend très bien parce qu'elles sont faciles à traduire avec pan qui veut dire tout. Puis de l'autre côté, on a des mots anciens qui parfois reviennent, arder qui voulait dire brûler d'ardeur. Puis des mots à peut-être relancer aussi. Et qui sont parfois venus de la francophonie. Et je pense par exemple à ce mot délicieux qu'on retrouve dans nos dictionnaires maintenant. Faire un petit velours à quelqu'un, c'est lui faire plaisir. Ça nous vient du Canada. Bon, c'est quand même mieux que partir à l'épouvante qui vient aussi du Canada. Donc faire un petit velours à quelqu'un, voilà quelque chose qui me plaît. Alors parfois de la Belgique nous viennent aussi pincer son français, c'est-à-dire le parler avec une certaine préciosité, l'accent parisien. Bon, on va essayer de pas trop le pincer. Ça nous fait penser à l'accent pointu aussi que nous reprochent tous nos amis de la Méditerranée. Alors, il y en a d'autres qui sont très vulgaires. On évoquait les sentiments, mais parfois dans la vulgarité, il y a quand même quelque chose de plaisant. Je vois, venant de Belgique, avoir le cul dans le beurre, c'est vivre dans l'aisance. Bon, alors, on évitera.
Je note Jean-Prévost. Julie Neveu, j'aimerais, avant qu'on écoute le prochain disque, qu'on s'intéresse à quelques tics et tocs de langage de notre époque. Alors, notre réalisatrice Stéphanie Texier me disait dans le casque qu'elle a horreur de petit. Mmh. Ah, ben tiens, ma petite dame, ah, ah, mais oui. on va se faire un petit casse-croûte. Ah, ben, et oui. Vous en parlez dans votre livre. Oui. Pourquoi ça peut agacer
mais ça
ce
peut
petit
agacer, ça agace Stéphanie Texier et ça peut agacer beaucoup parce que c'est très débilitant et infantilisant, tout simplement. C'est-à-dire que ça, c'est un vocabulaire qu'on appelle hypocoristique en linguistique. Bon, on s'en fiche un peu du terme, mais ça veut dire un vocabulaire qui exprime de l'affection. Et en fait, c'est vrai qu'il y a tout un langage qui est le langage de la famille, en fait, de la sphère privée, justement, dont je vous disais qu'il est devenu public. Et donc, vous allez avoir, moi, un type de chez Darty l'autre jour qui me dit, alors, ma petite dame, est-ce que je pourrais avoir un petit café? En effet, c'est quoi ce petit problème? On a un petit souci avec son petit, lave-vaisselle. En fait, on avait un gros souci, déjà. Et en fait, c'est vrai que petit, bah, non, j'ai plus tout à fait 5 ans. Alors, je veux bien que vous me parliez comme un adulte. Et puis, en général, le petit et le gros, vous voyez, donc c'est un emploi, c'est très intéressant parce que c'est plus le petit qui dit la taille et qui donc mesure objectivement une taille. C'est pas une mesure objective, c'est une mesure affective. Après, peut-être que ça vous fait du bien à certains autres parce que c'est quelques grammes de tendresse dans ce monde de brutalité.
General Electric's interprété Party Like a Human.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Ce que nos mots racontent de nous, c'est notre thème cet après-midi avec le lexicologue Jean Pruvot et avec la linguiste Julie Neveu. Annie, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez appelé parce qu'il y a quelques mots qui vous agacent.
Oui, qui m'agace un petit peu, hein. Il y a des choses plus graves dans la vie. Merci, bonjour à tous et merci d'avoir pris mon appel. Je voulais simplement donc vous faire part d'une expression qui est souvent utilisée actuellement et en particulier, je trouve, beaucoup par les journalistes. C'est quand on me souhaite une belle journée plutôt qu'une bonne journée ou un bel appétit plutôt qu'un bon appétit. Moi, personnellement, je préfère qu'on me souhaite un bon appétit, je pense qu'il sera meilleur. Voilà. Mais enfin, je pense que l'utilisation de cet adjectif, ça caractérise quand même notre société qui met en avant plus l'apparence que le fond des choses. Voilà.
En tout cas, je prends sur moi parce que je le dis souvent belle journée. Et, mais en tout cas, c'est très intéressant ce que nous dit Annie Julie Neveu, l'auteur de Je parle comme je suis.
Alors c'est très intéressant et Annie a tout compris, c'est-à-dire que sauf que peut-être elle fait un procès d'intention, Annie, parce que vous êtes en train de dire ah ils ont pas vraiment envie qu'on passe une bonne journée. Or s'ils disent belle journée, c'est au départ parce qu'ils ont trouvé que bon ne permettaient plus de faire passer leur vraie motivation. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment envie de vous souhaiter vraiment une très très belle journée. Donc, bon paraît vidé sémantiquement, vous voyez, il marche plus. Et donc, il y a une sorte de surenchère qui est un phénomène naturel de la langue. Les mots, plus on les dit, plus ils s'usent. Donc, ils mettent belle parce que par ce côté esthétique, il va pouvoir retrouver la pulsion, vous voyez, l'élan bienveillant. Donc, je pense que peut-être il faut voir ceux qui disent belle journée, qui ont vraiment envie de vous la souhaiter belle, eh bien, faut pas leur en vouloir.
Merci beaucoup, Annie, de nous avoir appelé. Bienvenue, Nicole, vous appelez de Toulouse.
Oui, bonjour à tous.
Alors, quels sont les tics de notre époque, les tics de langage de notre époque qui vous agacent un petit peu?
Oui, c'est la formule du coup, qui est beaucoup utilisée en ce moment, et notamment par les jeunes, qui quelquefois commencent leur phrase par du coup. Ce qui ne se justifie pas, puisqu'il n'y a rien eu avant.
Julie Neveu.
Non, je trouve ça très intéressant, Nicole, vous avez raison. C'est bien le changement de l'emploi de « du coup » que l'Académie française a déploré, parce que « du coup », avant, c'était une conséquence au milieu d'une phrase, donc « il pleut, du coup, je prends mon parapluie ». Et maintenant, il n'y a rien du tout, et sortant de ce néant absolu, il y a « du coup ». Alors, c'est un nouvel emploi. Moi, je pense qu'il reflète une fois de plus l'air du temps, qui peut vous agacer, en effet, c'est assez légitime. Surtout qu'il vient pour relancer, c'est comme un coup de poing, un coup a toujours eu tout cet aspect polysémique autour du coup. Il y a un impact et on essaie de redynamiser la conversation. Et très souvent, vous remarquez, moi, mes élèves, quand ils lèvent la main pour dire « du coup, on peut faire une pause », c'est que généralement, ils venaient de bugger. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'effort un peu rhétorique pour redonner du mouvement à quelque chose qui était inerte.
Nicole, vous nous avez dit au standard qu'il y a une autre expression qui vous agace un petit peu en ce moment.
Oui, c'est une expression très récente, c'est vraiment très très récente, qui est utilisée jusqu'à maintenant uniquement par les politiques et les journalistes, et vous-même, madame, vous l'avez utilisé déjà 4 fois durant l'heure, c'est « vous savez
». Vous savez.
Ah ben Nicole, écoutez, merci. Alors, sachez que c'est un tic de professeur, quant à moi. Ouais. Et vous savez, oui, bien sûr, ben, ça s'appelle un tic de langage très très classique, c'est-à-dire que j'espère que l'interlocuteur va le savoir, et donc je force un peu la parole et l'adhésion.
Et Nicole nous a dit également qu'il n'y a pas de souci, ça l'a gâché, c'est vrai que c'est une expression...
C'est sûr que souci, en plus, c'était très très fort, hein, au 16e, 17e, Corneille l'employait pour dire l'inquiétude, l'angoisse, et même mon souci, c'était mon être aimé qui me donne tant de soucis. Donc là, il a perdu complètement cette charge, il est devenu synonyme de problème. Et surtout, quand on dit pas de souci, c'est que potentiellement, il pourrait y en avoir. Donc ça aussi, c'est une formule qui est devenue tic, et qui veut dire de rien. Et en fait, ça paraît un peu cher vendu.
Jean Pruvot.
Oui, alors moi, si vous voulez, je pense que d'un côté, il y a la mode. Alors on entend beaucoup en ce moment, je suis en colère, tout le monde est en colère. On entend beaucoup aussi la sidération. Bon, il y a 15 ans, on entendait au niveau du vécu, quelque part. Bon, donc tout ça, ça fait partie de la mode. Et je comprends que ça agace quand c'est trop répété. Au bout d'un moment, c'est le cliché qui agace, en fait. Et je comprends, du coup, des expressions comme ça. Après, il y a des mots qui nous sont propres. Ou plutôt qu'on n'aime pas. Moi, je n'aime pas certains mots vulgaires. Pipi, mais insupportable. Alors que mes enfants l'ont toujours dit. Bon, donc si vous voulez, je ne peux pas prononcer ce mot. Et puis alors, quelque chose qui relève plutôt de la grammaire. On entend tout le temps, ça m'a coûté 200 euros, 500 euros. Et je me dis, mais non, c'est 200 euros, c'est 300 euros. Et donc là, ça a quelque chose, si vous voulez, qui relève peut-être de la norme. Et je me dis, ils ont peur de faire une faute d'orthographe. Et du coup, ils la font. Autrefois, on ne le faisait pas avec 200 francs, évidemment.
Julie Neveu, ces tics et ces tocs de langage racontent notre lien avec les autres. C'est ce que vous expliquez dans votre livre.
Bien sûr, ouais. C'est-à-dire qu'il montre qu'on est dans une interaction permanente et qu'on a besoin d'affirmer ce lien, que parfois on le fait inconsciemment et que peut-être c'est la preuve qu'on est tous en train de traverser la même époque.
Pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter le regretté Alain Rey, grand lexicographe et âme des dictionnaires Le Robert. Écoutons un extrait de sa toute dernière chronique sur France Inter le 29 juin 2006.
Pas une fois, en 13 ans de chronique, un mot choisi m'a laissé tomber. Tous révélés de petites ou de grandes vérités. À commencer par les mauvais traitements qu'on leur fait subir. Je salue donc à la fois les auditeurs de France Inter et les mots de la langue française. Une chaîne de radio est un lieu de sons et de signes, musiques et paroles. De musique, on continuera d'en parler. Des voix on en ouïra d'inouï. Mais des paroles, des mots, des words, des wörter, des palabras, des paroles et paroles, en sera-t-il encore question ? Et du français, toujours aimé, mais souvent bousculé, oublié, ignoré. Deux institutions en sont garantes, l'école, les médias. Or, elles sont ou bien malades ou bien coupables. Seuls les francophones peuvent les sauver, et la sauver, cette langue. Et les francophones, c'est vous, c'est nous tous. Le salut, c'est ce qui sauve. C'est au moins le souhait de sauvegarde et de santé. Aujourd'hui, ça veut dire aussi bien bonjour, que votre jour soit bon, que au revoir ou au réentendre. Et à bientôt, à plus, dit-on aujourd'hui. Salut et fraternité n'est pas seulement une formule révolutionnaire. J'ajouterai, auditeur cher, salut et liberté. Et salut et merci à mes amis et amis eux de France Inter qui sont venus si nombreux dans ce studio. Salut à tous et bonne chance à France Inter.
La voix d'Alain Rey, décédé le 28 octobre dernier à l'âge de 92 ans. Merci beaucoup Jean Pruvot, merci Julie Neveu. Toute la bibliographie est à retrouver sur l'appli France Inter. Demain, on s'intéresse aux vertus quotidiennes qui rendent heureux en compagnie du philosophe Carlo Ossola.